Moi, c'est Adèle Coq, donc je suis militante à lutte ouvrière. Alors, Lénine est mort il y a bientôt 100 ans, et depuis, ses idées, son combat ont été caricaturées et déformées de plein de façons différentes. Alors, d'abord par les anticommunistes de toutes sortes, qu'ils soient de droite ou sociodémocrates, des rédacteurs de manuels scolaires aux documentaristes, qui n'ont de cesse de dénoncer le putsch bolchevique, la dictature de Lénine, en rendant sans honte Lénine responsable des horreurs du régime de Staline. On n'entend pas ces gens être aussi virulents contre les gouvernements d'Union nationale de 1914 qui sont allés rafler les ouvriers et les paysans pour leur mettre un uniforme et les envoyer mourir par millions sur les champs de bataille. Ou contre leurs successeurs, soi-disant démocratiques, après 1945, qui sont responsables de massacres dans les colonies pour y maintenir la dictature des capitalistes français. Non, ces anticommunistes ne dénoncent la violence ou la dictature que lorsque ce sont les exploités, les ouvriers, les paysans, qui utilisent des armes contre leurs exploiteurs, comme ils l'ont fait avec Lénine en 1917. Et s'ils dénoncent et caricaturent la première tentative réussie de renversement du pouvoir des capitalistes, c'est pour nous convaincre que le capitalisme est la seule société possible. Mais les idées de Lénine ont été autant, sinon plus, victime du courant stalinien, qui a non seulement momifié son cadavre en l'exposant dans un mausolée, mais a mené une politique contre-révolutionnaire en se prétendant l'héritier de Lénine. En URSS, puis ailleurs dans le monde, le régime stalinien et les partis communistes qui le soutenaient ont pourchassé les militants communistes qui tentaient de maintenir vivantes les idées de Lénine, qui voulaient faire vivre la démocratie ouvrière face à la dictature des bureaucrates. Exclus du parti, arrêté, bientôt assassiné par milliers dans les camps de Staline, ce sont ces militants, ceux de l'opposition de gauche, autrement dit les militants dits trotskistes, qui ont permis aux idées de Lénine de rester vivantes. Pour le courant communiste révolutionnaire, trotskiste, dans lequel je milite, les idées de Lénine restent des armes pour mener le combat, pour renverser le pouvoir des capitalistes et l'État à leur service. Toute sa vie, Lénine a été un militant de la classe ouvrière, se réclamant du marxisme. Il s'est consacré à construire ce parti révolutionnaire, le parti bolchevique, qui a mené à la victoire la première révolution ouvrière, avec un pouvoir ouvrier qui a non seulement exproprié les restes de la vieille aristocratie russe, mais aussi la bourgeoisie capitaliste, et qui ensuite a tendu la main aux prolétaires du monde entier pour les convaincre de faire pareil. Les textes et les livres de Lénine sont toujours des combats militants. Il faut le lire en ayant en tête que jamais il ne fait de la philosophie ou de l'analyse historique en chambre. Dès qu'il écrit, c'est pour convaincre. Et il critique sans pitié tous ceux qui vident le marxisme de sa substance révolutionnaire, qui cherchent à s'adapter au courant dominant dans la société et qui, de fait, se transforment en défenseurs de l'ordre social en place. Ses idées et son combat sont d'actualité. Car depuis 100 ans, le capitalisme n'a résolu aucune de ses contradictions. Le pouvoir de la minorité capitaliste, celle qui possède les banques, les usines, les moyens de distribution, mène l'humanité dans une impasse. Crise climatique, crise économique sans fin, accumulation de richesses à un pôle et bidonville pour une large part de l'humanité, guerre permanente d'un bout à l'autre de la planète, explosion des dépenses d'armement, frontières nationales entourées de barbelés pour empêcher les migrants de venir trouver une vie meilleure. Pourtant, les possibilités de satisfaire les besoins vitaux de l'humanité n'ont jamais été aussi présentes. Les progrès scientifiques et technologiques, mais aussi une organisation de la production à l'échelle de la planète entière, avec la collaboration de fait des travailleurs de tous les pays du monde. Tout ça, ça met à l'ordre du jour une société communiste. C'est en cela que les idées de Lénine avec le monde actuel. La révolution sociale est plus que jamais nécessaire pour adapter l'organisation politique de la société, les prises de décision, à ce fonctionnement qui est déjà de fait collectif, mais qui reste placé sous les ordres d'une minorité d'exploiteurs. Alors, à l'époque où Lénine s'est éveillé et formé, donc c'est les années 1880-90 en Russie tsariste, il ne manquait pas de jeunes intellectuels révoltés qui engageaient leur vie et leur enthousiasme pour les idées socialistes. Ceux de la génération avant Lénine, révoltés par l'impasse de la société et ne voyant pas de levier pour faire bouger les choses, se sont lancés dans des attentats terroristes pour réveiller les masses paysannes. Comme par exemple le frère aîné de Lénine, qui d'ailleurs a été exécuté pour cet engagement. Lénine, comme d'autres de sa génération, ont repris les idées de Marx. Ils ont compris que la force sociale, capable d'ébranler toute la société, c'était le prolétariat. Même si la classe ouvrière n'était qu'embryonnaire en Russie à l'époque, c'était elle qui était porteuse d'avenir. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ce sont les prolétaires qui font tourner l'économie mondiale. Les premières et deuxièmes lignes, vous savez, les ouvriers, les techniciens, les aides-soignants, les infirmiers, le personnel de ménage, les livreurs à vélo, les cheminots, les dockers, les enseignants, les secrétaires, les ingénieurs, les comptables, les ouvriers agricoles, etc. Parce qu'ils font fonctionner toute la société, ils représentent une force considérable, à condition d'en prendre conscience et de s'organiser. Cette prise de conscience ne peut avancer que si les hommes et les femmes s'emparent des idées révolutionnaires et en font le combat de leur vie, comme l'ont fait le jeune Marx ou le jeune Lénine à leur époque. On peut prendre l'exemple, dans l'actualité, du mouvement contre la réforme des retraites. Ça fait plusieurs mois que ce mouvement a regroupé des millions de travailleurs. Les militants qui sont sur le terrain des idées communistes, ils peuvent s'appuyer sur cette expérience pour développer pas mal, enfin redévelopper la conscience de classe. On peut expliquer que les manifs, même si elles sont très nombreuses, même s'il y a des millions de gens dans la rue, ça ne suffit pas à faire reculer le gouvernement. Parce qu'en fait, derrière Macron, il y a une classe sociale, la bourgeoisie, le patronat, les financiers, et qu'en fait, le problème, c'est leur pouvoir. Et des manifestations ne suffisent pas à menacer sérieusement les profits de cette classe sociale. Tant qu'on n'est pas massivement en grève. Voilà. Et comme Lénine et bien d'autres marxistes l'ont expliqué en leur temps, il n'y a pas de raccourci, de méthode qui remplace la mobilisation consciente de la grande masse des travailleurs par leurs armes de classe, les grèves, les manifestations, les comités de grève, voire les soviets. Tant que la classe ouvrière n'est pas consciente de sa force, de ses intérêts politiques propres, c'est la bourgeoisie qui impose sa loi. Et en particulier dans une période de crise comme on en traverse une aujourd'hui, le grand patronat, il veut vraiment rien lâcher. Alors, ces idées-là, ce que je viens de dire, c'est pas du tout ce qu'expliquent aujourd'hui les directions syndicales ou les partis de gauche. Ils cherchent à nous raccrocher à un nouveau vote à l'Assemblée, début juin, ou à l'espoir d'une nouvelle constitution, après avoir essayé de nous faire croire à la motion de censure au Conseil constitutionnel ou au RIP. C'est la version actuelle du réformisme, ce courant politique qui cherche à faire croire aux travailleurs qui peuvent peser par leur bulletin de vote, qu'on peut changer notre sort progressivement, pacifiquement, grâce à un bon gouvernement ou de bons élus à l'intérieur des institutions. Ces idées ont justement prospéré dans le mouvement ouvrier à l'époque de Lénine et il les a combattues avec acharnement dans plusieurs ouvrages, comme « L'État et la Révolution » en 17 ou alors « La Révolution prolétarienne et le renégat Kautsky » en 18. Je le cite. « La démocratie bourgeoise, tout en constituant un grand progrès historique par rapport au Moyen-Âge, reste toujours une démocratie étroite, tronquée, fausse, hypocrite, un paradis pour les riches, un piège et un leurre pour les exploités, pour les pauvres. » Je trouve que là, on est vraiment en plein dans l'actualité. Beaucoup de travailleurs s'en rendent compte aujourd'hui qu'on n'est pas dans une démocratie. Alors que, on sait tous ici, la majorité, voire la quasi-totalité des travailleurs étaient contre cette réforme des retraites, en fait, le gouvernement, il a de multiples outils pour faire passer sa loi en force. Et pour ceux qui continuent à contester, il y a les matraques de la police, les gardes à vue arbitraires et les condamnations injustes. Ce ne sont pas des abus isolés, c'est lié à la fonction même de la police qui est là pour défendre l'ordre social en place. Et vous avez vu d'ailleurs cette semaine la violence de la police contre les ouvrières grévistes à Verbonnet. On peut s'appuyer sur cette expérience aujourd'hui, qui a été faite par des millions de travailleurs, pour montrer ce qu'est l'État. Expliquer, comme le disait Lénine, je le cite à nouveau, « Aussi démocratique soit-il, tout État où existe la propriété privée de la terre et des moyens de production, où règne le capital, est un État capitaliste, une machine aux mains des capitalistes pour maintenir dans la soumission la classe ouvrière et la paysannerie pauvre. Le suffrage universel, l'Assemblée constituante, le Parlement ne sont que la forme, ils ne changent rien au fond. » Fin de citation. Alors, n'est pas spécifique au fait qu'aujourd'hui, on aurait Macron à la tête de l'État. Quand on a un gouvernement de gauche, c'est exactement pareil. D'ailleurs, les matraques de la police, quand on manifestait contre la loi travail de Hollande, n'étaient pas plus douces que celles d'aujourd'hui. C'est l'État tout entier, avec ses généraux, ses hauts fonctionnaires, ses préfets, son conseil constitutionnel, ses juges, son armée, sa police. C'est un appareil hors de contrôle de la population, lié à la bourgeoisie capitaliste par mille liens, et qui est là pour défendre becs et ongles, le droit à la propriété des plus riches. On est en plein dans ce que défendaient Lénine et les militants marxistes de son époque. Aujourd'hui, c'est important d'expliquer ça, expliquer comment fonctionne l'exploitation capitaliste, qu'on ne peut pas changer les choses par la voie des élections, que l'État est forcément au service des exploiteurs, et qu'il faudra en passer par une révolution, par un renversement de l'État actuel et son renversement par un pouvoir ouvrier. Ils ont eu l'acharnement et le courage de défendre cette perspective à leur époque sans avoir peur d'être parfois minoritaires, en ayant contre eux à la fois l'opinion publique bourgeoise, officielle, mais aussi les courants réformistes qui cherchaient à orienter les ouvriers vers la voie de garage de l'électoralisme. Alors, un autre combat de Lénine dont je voulais parler, qu'il a mené là aussi à contre-courant et contre ceux qui trahissaient et qui s'adaptaient aux idées des classes dominantes de son époque, c'est la lutte contre la guerre impérialiste de 1914, la lutte pour maintenir le drapeau rouge de l'internationalisme du mouvement ouvrier face à l'embrigadement des socialistes et des syndicalistes de cette époque derrière les drapeaux nationaux et le militarisme. La guerre économique entre grandes puissances qui a conduit à la guerre de 14 existe à plus grande échelle encore aujourd'hui, pour le contrôle des matières premières, des chaînes de production et des marchés. Les rivalités entre les puissances de l'OTAN, dont la France et les États-Unis d'un côté, et de l'autre la Russie et la Chine, causent déjà une sale guerre en Ukraine qui dure depuis plus d'un an. Une guerre meurtrière pour les populations ukrainiennes et russes. Et elles font peser la menace d'une généralisation de la guerre. Avant 1914, le mouvement ouvrier s'y était préparé. Il avait dénoncé la nature impérialiste de la guerre qui arrivait. Il avait dénoncé le patriotisme et le nationalisme qui visent à faire croire qu'il y a des intérêts communs entre les exploités et les exploiteurs. Les partis ouvriers regroupaient les travailleurs sous la devise « Prolétaires de tous les pays, unissons-nous ». Et ils refusaient tout soutien à l'armée et aux dépenses militaires de leur pays. Alors, même si pas mal de dirigeants ont tourné Kazakh au début de la guerre de 14, Lénine, Trotsky font partie de cette minorité de socialistes, avec Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht en Allemagne, avec en France les syndicalistes révolutionnaires Monat ou Rosmer, qui n'ont pas renoncé en pleine guerre à leurs convictions internationalistes. Lénine expliquait en 1915, je le cite à nouveau, dans Le socialisme et la guerre, pardon, je le cite. Aujourd'hui, la bourgeoisie impérialiste trompe les peuples au moyen de l'idéologie nationale et de la notion de défense de la patrie, dans la guerre actuelle entre esclavagistes qui a pour enjeu l'aggravation et le renforcement de l'esclavage. Fin de citation. Ben aujourd'hui, les états-majors militaires, les gouvernements se préparent consciemment à la guerre. Macron nous parle d'économie de guerre, de payer le prix de la liberté. L'économie se réoriente pour augmenter la production d'armes. Ils veulent nous préparer aussi moralement, avec le SNU, qui veulent généraliser à la jeunesse pour la réhabituer à marcher au pas, à saluer le drapeau, et à la convaincre de soutenir l'armée éventuellement et de mourir pour son pays. Les gouvernants veulent que nous prenions parti, que nous soutenions les esclavagistes, qui a pour enjeu l'aggravation et le renforcement de l'esclavage. Fin de citation. Ben aujourd'hui, les états-majors militaires, les gouvernements se préparent consciemment à la guerre. Macron nous parle d'économie de guerre, de payer le prix de la liberté. L'économie se réoriente pour augmenter la production d'armes. Ils veulent nous préparer aussi moralement, avec le SNU, qui veulent généraliser à la jeunesse, pour la réhabituer à marcher au pas, à saluer le drapeau, et à la convaincre de soutenir l'armée éventuellement et de mourir pour son pays. Les gouvernants veulent que nous prenions parti, que nous soutenions le camp des grandes puissances de l'OTAN. Mais pas plus qu'en 14, les travailleurs n'ont à prendre parti pour les uns ou pour les autres. Comme alors, les grandes puissances sont prêtes à mettre la planète à feu et à sang pour défendre leur droit à exploiter, comme ils le font de toute façon tout le temps aux quatre coins de la planète. Alors certains à gauche réclament des solutions pacifiques et durables, ou ils appellent à travailler davantage sur la paix. Mais là encore, moi je pense que c'est répandre des illusions, faire croire qu'on pourrait avoir la paix, vivre en paix, sans renverser le capitalisme. Je cite encore Lénine en 1915. Les sociaux-démocrates ne tromperont pas le peuple en laissant croire qu'en l'absence d'un mouvement révolutionnaire, il est possible de parvenir à une paix sans annexion, sans oppression des nations, sans pillage, sans que subsiste le germe de nouvelles guerres entre les gouvernements actuels et les classes actuellement dirigeantes. Quiconque désire une paix solide et démocratique doit être partisan de la guerre civile contre les gouvernements et la bourgeoisie. Fin de citation. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, face au gouvernement, aux états-majors militaires, qui, comme leurs prédécesseurs de 1914, préparent la société à la guerre, ceux parmi les travailleurs qui veulent sérieusement réfléchir aux moyens de renverser le pouvoir des capitalistes, ils ont tout intérêt à s'inspirer du courage, de la ténacité, de l'engagement d'un Lénine et du programme révolutionnaire qu'il portait. Je termine par une dernière phrase de lui. Les socialistes doivent profiter de la guerre que se font les brigands pour les renverser tous.